Europe 1, 8h.
Ne pas avoir la contrainte de 21h, ça change tout. Parce que le soir d'été, on a envie de profiter, on a envie d'être dans les rues. Ça change vraiment tout.
Et pas facile de rentrer au Bercail à 23h par une chaude soirée. Sur les quais à Paris, on est resté traîné. Alors qu'aux Invalides, il a même fallu évacuer. C'est la police qui s'en est chargée.
Une marche contre les idées d'extrême dans l'extrême droite dans les grandes villes de France. Aujourd'hui, la gauche défilera en ordre dispersé.
Et puis l'Euro de foot, ça y est, c'est parti. Premier match remporté par l'Italie face à la Turquie.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les beaux jours sont là, les soirées sont douces. Vous êtes nombreux à avoir profité d'un premier week-end avec un couvre-feu plus tardif.
Permission de sortie jusqu'à 23h pour la première fois depuis des mois. Et du monde hier un peu partout, aux terrasses, aux restaurants. Les quais de Seine étaient bondés également, si bien qu'à l'heure de rentrée, personne n'était vraiment motivé. Reportage de Diane Berger.
Au soleil, sur le bord de la Seine, Justine et ses amis trinquent au retour des vendredis soirs presque normaux.
Ne pas avoir la contrainte de 21h, ça change tout. Parce que le soir d'été, on a envie de profiter, on a envie d'être dans les rues. Ça change vraiment tout, de ne pas avoir cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Quoi.
Et comme beaucoup ici, elle le jure, à 23h, promis, elle sera rentrée chez elle. Dans la pratique, c'est tentant de gratter encore quelques minutes de plus, reconnaissent Edgar et ses copines.
Il n'est pas 23h encore.
Il est 22h52.
Est-ce que dans 8 minutes, vous êtes vraiment tous chez vous?
Ah ouais, j'habite juste à côté.
On sera peut-être pas à 23h pile, mais à peu près.
Mais dans la bande d'Alexis, la perspective du couvre-feu déclenche carrément un fou rire.
Il est quand même 23h. Vous ouvrez une bouteille de vin?
Pas du tout, je rentre chez moi. On va juste espérer de ne pas se faire verbaliser.
Et une demi-heure après le début du couvre-feu, les fêtards étaient encore particulièrement nombreux sur les quais de Seine.
Le reportage de Diane Berger. En tout cas, il y en a d'autres que les forces de l'ordre ont eu beaucoup plus de mal à déloger. Écoutez. Ces jeunes qui chantent étaient sur l'esplanade des Invalides, toujours à Paris, pour une grande fête après un appel lancé sur les réseaux sociaux. Pas ou peu de masques ni de distanciation. Les forces de l'ordre ont dû évacuer une vingtaine de minutes après le couvre-feu et le calme est revenu aux alentours de minuit.
Sur le front de la maladie, en tout cas, les chiffres s'améliorent. La France est repassée depuis hier soir sous la barre des 5000 cas positifs quotidiens.
Et on doit atteindre les 30 millions de primo-vaccinés d'ici peu. Mais en Seine-Saint-Denis, on est en retard, d'où l'idée de créer un centre de vaccination sans rendez-vous au beau milieu du centre commercial de Rosny 2, Laura Taouchanoff.
Ce village vaccinal en plein centre commercial doit d'abord attirer ceux pour qui la fracture numérique est un frein à la prise de rendez-vous. C'est le cas de Camara. S'il a finalement réussi à se faire vacciner, c'est uniquement grâce aux actions du Secours Populaire.
Oh, on a cherché un peu partout. Hein. Je n'utilise pas l'Internet. C'est grâce au Secours Populaire, c'est eux qui m'ont aidé à voir le créneau.
Il y a aussi la barrière de la langue en Seine-Saint-Denis avec une forte diversité. Alors cette opération promet de simplifier le parcours jusqu'à l'injection. Plus de proximité, moins d'étapes. Samia, par exemple, ne savait pas qu'elle était éligible.
Les papiers ne sont pas un obstacle pour faire le vaccin. Car toujours, si on veut, on peut. Je ne le fais pas. Ça fait bien pour moi. Une information de plus.
Avec ce village vaccinal, la Seine-Saint-Denis continue à essayer de rattraper son retard, explique Stéphane Troussel, le président du département.
En raison d'inégalités d'accès à la santé et au parcours de soins, eh bien, nous pensons qu'il faut démultiplier encore l'action et nous voulons aller encore plus loin avec du sans rendez-vous. Toute action, petite ou grande, elle est, de mon point de vue, essentielle dans le combat contre l'épidémie.
Dans 6 semaines, le village vaccinal se réinstallera dans ce centre commercial de Rosny 2 pour effectuer tous les rappels.
Et on espère 500 injections de vaccins pendant ces 2 jours de week-end.
Dans l'actualité également, partis politiques, syndicats, associations, au total plus d'une centaine d'organisations se mobilisent aujourd'hui contre les idées d'extrême droite.
À Paris et un peu partout dans les grandes villes de France, et avec la semaine qui vient de s'écouler, eh bien la gauche marchera, oui, mais en ordre dispersé. Les précisions de Claudia Bertram.
L'actualité récente nous montre qu'on a encore plus raison de faire ça, estime le député insoumis Éric Coquerel, co-initiateur de l'événement, en référence à la vidéo du youtubeur Papacito et à la gifle reçue par Emmanuel Macron. Mais l'organisation de cette marche a été laborieuse. Certains partis politiques rechignent d'abord à signer l'appel. Finalement, ils marcheront tous, mais chacun dans son coin. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et le patron des Verts, Julien Bayou, défileront à Paris. Son homologue PS, Olivier Faure, a choisi Avignon, pendant que le communiste Fabien Roussel sera à Lille. Une dispersion qui illustre la division des forces de gauche. Division encore accentuée par les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon le week-end dernier, liant terrorisme et élection présidentielle que tout le reste de la gauche a condamné. Bref, un insoumis ne s'en cache pas. Cette manifestation commune n'augure pas d'une union de la gauche. Certains viennent en traînant des pieds.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. À l'étranger, on vote aujourd'hui en Algérie. Ce sont des élections législatives anticipées. Le pouvoir en place cherche une nouvelle légitimité, mais les Algériens ne se font plus beaucoup d'illusions. Ces derniers jours, le régime a interpellé plusieurs opposants, dont l'une des figures du mouvement contestataire du Irak, ce qui fait craindre une très forte abstention.
On se projette sur l'été maintenant, si vous le voulez bien, les naïcs. Il est temps de savoir comment nous allons pouvoir voyager.
Passeport sanitaire, reprise du trafic aérien, à quoi va ressembler l'été dans les aéroports? Le secteur aérien fait partie des plus impactés par la pandémie. Aurélien Fleureau, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre?
Alors les compagnies aériennes espèrent monter en puissance, mais elles savent que ce sera progressif. En tout cas, tout sera prêt. Air France est en train de déconfiner 22 avions et va se concentrer sur les destinations les plus demandées en renforçant par exemple son offre vers la Grèce. En juillet-août, la compagnie va proposer 65% de son offre par rapport à 2019. Transavia, sa filiale à Bakou, espère de son côté faire mieux qu'en 2019 avec une flotte élargie et grâce à des réservations en hausse vers l'Espagne, le Portugal et toujours la Grèce. Corsair, avec ses offres vers la Guadeloupe et la Martinique, espère aussi réaliser un été aussi bon qu'il y a 2 ans. Le comparateur Liligo note 3 fois plus de recherches que l'an dernier. Paris Aéroport s'attend à un trafic autour de 50% par rapport à un été classique. C'était à peine 20% en mai. Et ce que tous les acteurs du secteur aérien souhaitent éviter, c'est bien sûr l'embouteillage lors des contrôles. Le pass sanitaire européen, accessible via l'application Tous Anti-Covid, doit permettre de gagner quelques précieuses minutes pour chaque passager.
Et les organisations syndicales d'ADP lancent 2 préavis de grève le week-end prochain. Le premier week-end déjà des départs en vacances.
Et Augustin de Romanet, le patron du groupe Aéroports de Paris, sera mon invité d'ici quelques minutes.
Eux ont pu voyager. 16 000 spectateurs ont assisté au match d'ouverture de l'Euro hier soir à Rome. L'Euro qui a enfin débuté avec 1 an de retard et une victoire probante de l'Italie 3-0 face à la Turquie. Reportage de Simon Rubin.
Le public italien debout dans le stade, ovationnant son équipe tout juste victorieuse. Image qu'on avait presque oubliée. L'Euro a commencé de la meilleure des manières. Dans cette Italie meurtrie par le Covid, hier soir, tout un pays a pu célébrer, fêter un match de foot avec du monde en tribune et une victoire. Soirée parfaite pour Pietro.
C'était une très belle expérience. Une expérience pas normale complètement, mais un peu normale aussi. C'était surtout la chose la plus belle de ce soir.
Et dans la nuit romaine, tous les bars étaient agités de la même joie électrique. Paolo en a un peu perdu la voix. J'avais perdu l'habitude de crier comme ça. Je n'ai plus de voix, mais c'est pas grave. Je ne comptais pas m'en servir après le match, plaisante-t-il. Crier, rire, partager. Hier, la joie a repris ses droits. Au stade, tout s'est bien passé, l'organisation fut une réussite et ici, on se prend à rêver d'un été vibrant et léger. Rome, Simon Rubin, Europe 1.
Et la belle affiche à suivre aujourd'hui, ce sera Belgique-Russie.
Merci, Lénaïque Meunier, vous restez avec nous. 8h08, dans un instant, le journal de Roland-Garros.
Roland-Garros 2021,
Europe 1, radio officielle.
Pierre de Villeneuve.
Et on retrouve Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour. Oui, vous entendez, Rafael Nadal acclamé hier soir. En principe, c'est quand il a gagné. Mais hier, pour la première fois en 14 demi-finales disputées Porte d'Auteuil, l'ogre de Manacor s'est incliné et le public lui a rendu cet hommage que vous venez d'entendre.
Eh oui, et son vainqueur, c'est le numéro 1 mondial à l'issue d'un match historique.
Eh oui, hein, quand deux légendes du tennis, 20 titres du Grand Chelem pour Nadal, 18 pour Djokovic, quand deux légendes du tennis se retrouvent, cela donne un match d'anthologie. 4h11 de combat et 4-7, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2, avec en plus une dérogation au couvre-feu accordée directement depuis le sommet de l'État, hein, pour que le public assiste à toute la rencontre qui s'est terminée à 23h20 et un Djoko aux anges.
C'était sûrement le plus grand match que j'ai joué ici à Paris. C'est sûr.
Bref, ce fut hier soir un tremblement de terre battue, bien entendu. Nadal ne gagnera pas un 14e titre à Roland. Djokovic tentera lui d'en remporter un deuxième face au jeune grec de 22 ans, Stefanos Tsitsipas, qui est venu à bout hier de l'allemand Sacha Zverev en 5 manches.
Ouais, mais avant cette finale, ce choc des générations qui est donc dimanche, les filles sont à l'honneur aujourd'hui.
Ouais, finale là aussi inédite entre deux adversaires qui n'ont jamais atteint ce niveau de la compétition. D'un côté, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 31 ans. De l'autre, la Tchèque Barbora Krejčíková, surtout connue pour ses résultats en double. Elle est d'ailleurs qualifiée pour la finale du double aussi. Le mental va jouer encore plus que d'habitude, confie l'ancienne lauréate Marie Pierce.
Il y a beaucoup d'émotions. Je me souviens, mon premier finale de Grand Chelem, c'était ici à Roland en 94. J'ai pas dormi là. La veille, tellement d'émotions, et puis je pensais à mon discours, et il y a plein de choses, donc voilà, c'est pas facile à gérer.
Et la couleur du jour, Axel ? Eh bien, bleu, blanc, rouge, deux Français en finale du simple garçon, Arthur Fils face à Luca Van Aert, Fils qui est aussi qualifié pour la finale du double cet après-midi, ça c'est les juniors, et puis la paire Herbert-Mahut en finale du double, messieurs, seniors, on se contente de ce qu'on a.
Merci Axel, mais ce sera très bien dans un instant.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Dans un instant, le président des aéroports de Paris est avec nous, Augustin Romanet, à tout de suite.